12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Sincèrement, c'est surréaliste. Et c'est pas digne d'un joueur professionnel, voilà.
De cette musique méditative, hypnotisante, presque surréelle, émerge une voix.
Alors, je trouve que c'est vraiment un système très fragile. Et pour moi, c'est surréel.
C'est surréaliste.
Tu viens ici tout de suite.
C'est inacceptable. Il est de mon devoir d'arriver à changer tout ça.
Mais c'est incroyable. La meilleure sensation de ma vie. Le plus beau jour de ma vie. Surréaliste. Oh là.
C'est surréaliste, le mot est partout. Il dit l'étonnement, mais aussi l'indignation. On l'utilise un petit peu à tort et à travers, surtout devant des événements qu'on ne comprend pas. Une décision de l'arbitre, des événements qu'on ne comprend pas, une alliance politique par exemple, une demande de notre N+1, les embouteillages du matin. C'est surréaliste, le sens nous échappe et nous sommes perdus, alors c'est surréaliste. Loin de moi l'idée de juger l'emploi que nous faisons de ce terme, c'est la vie des mots de se faufiler. Mais aujourd'hui, on va revenir au sens premier du surréalisme avec vous. Damien McDonald, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes franco-écossais, dessinateur, illustrateur, commissaire d'exposition et auteur de bande dessinée. Et votre nouvel album, Le Rayon Invisible, est une ode au surréalisme en tant que mouvement artistique. Vous y convoquez ceux qui en sont à l'origine, André Breton en tête, évidemment. Mais vous y rêvez aussi d'un surréalisme qui pourrait sauver le monde. C'est surréaliste. Est-ce que c'est une expression que vous aussi vous utilisez à tort et à travers dans votre vie quotidienne ?
Oui, beaucoup. Et je crois que c'est une des puissances de ce mouvement artistique d'avoir été transformé en adjectif, d'avoir été un peu adjectivé comme ça. C'est arrivé aussi au romantisme. On dit très facilement d'une scénette qu'elle est romantique, alors qu'en règle générale, le romantisme d'origine était un mouvement révolutionnaire, artistique, qui a changé et les lois et les mœurs de notre Europe. Donc oui, je trouve ça assez beau que ce soit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, faufilé dans le quotidien et que ça nous ait contaminé d'un petit soupçon de révolutionnaire dans le vocabulaire.
Ça vous choque pas qu'il puisse être un petit peu dénaturé ou vidé de son sens ?
Non, puisque je crois que les œuvres qui portent le surréalisme sont toujours aussi vivaces.
Alors, le titre de cet album, on l'a dit, c'est Le Rayon Invisible. Il paraît en parallèle donc de l'exposition surréalisme qui a ouvert ses portes au Centre Pompidou à Paris pour le 100e anniversaire du premier manifeste du surréalisme d'André Breton. Alors, Le Rayon Invisible, on l'a dit, c'est le titre. Ça sonne un petit peu comme un film fantastique des années 50, un truc un peu ringard, même si j'ose dire. D'où vient ce titre ?
C'était tout à fait l'intention. Le surréalisme a été fasciné par la culture populaire, par le grand guignol, par le théâtre de boulevard, les romans de gare. C'était des choses auxquelles il portait beaucoup d'intérêt. Et le titre est venu tout simplement d'une phrase énigmatique à la fin du manifeste, du premier manifeste. André Breton y dit « Le surréalisme est le rayon invisible qui nous permettra de vaincre nos ennemis ». Et en utilisant ce terme de rayon invisible, il convoque évidemment tout cet imaginaire, comme ça pratiquement aux confins de la science-fiction. Et en le lisant, je me suis dit « Mais et si jamais on pouvait le prendre au pied de la lettre ?» Et si ce n'était pas du tout une métaphore, que les surréalistes avaient réellement construit un rayon invisible et qu'il était comme un pistolet laser, tel Flash Gordon au pays des Lémuriens, je ne sais pas, un objet dont on pourrait se saisir et qui permettrait de convoquer à nouveau cet esprit révolutionnaire.
Alors c'est ce qui va se passer dans votre album, on va en parler, mais vous citiez André Breton qui dit qu'un jour il pourrait l'emporter sur ses ennemis, ses adversaires. C'était qui ces adversaires-là dans l'entre-deux-guerres ?
Hélas, ils étaient nombreux. Ce contre quoi le surréalisme s'est élevé, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est la violence du capitalisme, c'est le colonialisme, c'est la capacité que nos congénères ont à battre en brèche l'amour, la tolérance, voilà. Donc hélas, ces ennemis étaient en pleine montée. On sait quelles ont été les tristes conséquences des années 30. On espère que l'histoire ne bégaye pas trop et qu'on n'est pas en train de revoir une montée comme ça de ces adversaires qu'ils ont contribué à ridiculiser.
Vous aviez quel âge quand vous avez rencontré le surréalisme ?
Alors, j'étais adolescent. J'ai eu beaucoup de chance. Des amis m'ont offert Nadja.
Et, André Breton.
D'André Breton, qui est un livre absolument bouleversant. Et de découvrir au moment de l'adolescence cette liberté d'aimer, cette liberté de rêver, ce rapport à la société m'a donné des ailes, m'a donné la sensation qu'il y ait une frontière s'ouvrait, voilà, la sensation de découvrir un nouveau territoire.
C'était un bon âge, l'adolescence, pour découvrir ce texte, Nadja?
Oui, c'est merveilleux, parce que je crois que le surréalisme a cela de magique, que il le dit d'ailleurs à plusieurs reprises, Breton, il s'agit d'être du côté de la jeunesse. Il s'agit d'être du côté de ceux qui... Alors, il est mort avant, hein, de voir les barricades de mai 68, mais il est absolument sûr et certain qu'il aurait été de cette énergie-là.
Alors, on va reparler tout à l'heure, bien sûr, de l'influence qu'a pu avoir André Breton et qu'ont pu avoir les surréalismes sur l'époque d'aujourd'hui, que vous appelez de vos voeux, d'ailleurs, dans cet album. On va revenir un petit peu sur la genèse du livre. Je parlais de l'exposition sur le surréalisme à Pompidou pour le centenaire. C'était une commande qui vous a été faite par le Centre Pompidou. Comment ça s'est passé, la création de cet album?
Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Laurent Lebon, donc le président du Centre Pompidou, était venu avoir une exposition rétrospective de l'histoire de la bande dessinée, dont j'ai eu la chance d'être un des commissaires, qui avait lieu au Nouveau Musée National de Monaco, et j'y ai travaillé avec Stéphane Vaquier et Marie-Claude Beau. Laurent Lebon a vu l'exposition, et quand il a vu mon travail, il m'a proposé de faire une bande dessinée avec le centre, un peu comme le Louvre avait fait avec Futuropolis, cette collection inaugurée par Marc-Antoine Mathieu. Et j'ai tout de suite eu envie de travailler sur le surréalisme, parce que je suis pris par ce virus très jeune, et c'est mon obédience, c'est vraiment ce en quoi je crois. Je suis absolument persuadé que les combats écologiques, les combats décoloniaux, les combats contemporains nécessaires rejoignent complètement cette ferveur révolutionnaire de Breton.
Alors, c'est la troisième partie de votre album qu'il faut vraiment feuilleter avec attention, parce qu'il y a énormément de références, énormément de documentation, d'informations pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément le langage surréaliste. Et comment vous avez contourné cet écueil, justement, d'en faire peut-être trop, d'être dans l'exhaustivité? Comment vous avez fait ça?
J'ai fonctionné à l'affect, j'ai fonctionné au plaisir, et je me suis dit que j'allais, comme un petit poussé à travers la forêt obscure, comme ça, des symboles et des correspondances, laisser des cailloux blancs pour ceux qui avaient envie d'aller chercher plus loin, mais qu'en même temps, ça ne parasite pas la narration principale. Parce que j'avais envie de quelque chose qui soit pas romanesque, parce que Breton détestait les romans, mais de quelque chose qui soit narratif et qui puisse se lire d'un souffle. Je préférais quelque chose de l'ordre du souffle.
Alors justement, on est aidé par le personnage principal, c'est Flamel, qui est donc une jeune femme qui veut faire un film sur les surréalistes et qui rencontre un producteur. Qu'est-ce qu'elle incarne, cette Flamel, pour vous?
Alors son nom en dit pour moi assez long. Elle est la version féminine, la parèdre de Nicolas Flamel. Elle est alchimique, un peu comme Esmeralda pour Hugo. Sont des personnages qui incarnent la transmutation, la transformation. Et puis c'est quelqu'un en qui je me projette, parce que je crois que elle tente de recoudre des choses que les cris du monde n'ont pas envie d'entendre. Elle a envie de chuchoter quelque chose que le bruit du monde ne laisse pas toujours passer.
Et elle est opiniâtre, parce qu'en face d'elle, elle a donc ce producteur, alors qui est quand même une caricature de producteur, qui dénonce, et ça c'est très drôle dès le début du film, de l'album, pardon, ce producteur dénonce le machisme et la misogynie, il le traite de phallocrate, c'est ça, de Breton, alors que lui-même est un bel exemple de l'espèce, quand même.
Oui, c'était un petit jeu que j'ai voulu mettre en place d'emblée avec le lecteur, de montrer que parfois, André Breton a pas mal été caricaturé, et parfois ces caricatures viennent pas forcément de l'endroit dont on les attend. Et si Breton a des défauts, il en a certes, ce qu'on lui a reproché et venait un peu toujours pour contrecarrer la violence révolutionnaire. Mmh. Et donc on a souvent entendu « Oh, le pape du surréalisme, il était professionnel des excommunications, il était ceci, il était cela ». Et évidemment, cela masque derrière la virulence et l'importance de ces combats et les raisons pour lesquelles toutes ces excommunications ont eu lieu, qui étaient profondément politiques. Et malencontreusement, quand on se penche sur l'histoire, on voit qu'il n'avait peut-être pas si tort. Et beaucoup de ses critiques les plus virulents ont changé avec le temps. Guy Debord, par exemple, avec le temps, a fini par se reconnaître le plus en plus dans le travail d'André Breton. Et c'est vrai que moi-même, j'ai succombé à un moment donné en me disant « oui, je dépasse le surréalisme, je préfère ces dissidents ». Et en fait, on se rend compte, en se penchant vraiment, que Breton était le dissident des dissidents, et que c'est une très belle ligne de fuite à suivre.
Alors, je vous propose d'écouter justement une femme qui parle du surréalisme et de Breton. Elle nous a quittés le 29 juillet dernier, poétesse, elle a fait partie du groupe des surréalistes, c'était dans les années 60. Vous la citez dans votre album. Cette femme, c'est Annie Lebrun, écoutez.
Dans ce manifeste, Élien Breton ne se propose rien moins que de redonner à l'homme toutes ses chances de vivre autrement, c'est-à-dire de vivre à la mesure de ses rêves. Il s'agit là d'une injonction formidable. Et je crois que dans l'histoire presque de la pensée, il y a rarement eu des injonctions de cette force qui fait qu'un homme, avec les moyens extraordinaires qu'il se trouve avoir, avec toute sa sensibilité, met son énergie totale pour essayer de réveiller en chacun de nous à la fois ce qu'il y a de plus enfoui et de plus condamné par ce monde-ci et de plus merveilleux.
Voilà, c'est donc Annie Lebrun. Le rêve, c'est important pour vous, Damien McDonald, j'ai le sentiment.
Ah oui, c'est absolument essentiel. C'est l'outil premier, la chance de pouvoir explorer sa psyché. Je suis convaincu, alors c'est peut-être une lubie, mais qu'il y a à l'intérieur du monde onirique une porte qui donne sur l'inconscient collectif. Et je suis sûr que si on creuse suffisamment le sillon de ses rêves, on retrouve les rêves des autres. Et je crois vraiment fermement dans le fait que le travail du rêve est quelque chose qui peut libérer la société de toutes les chapes de plomb qu'on peut imaginer.
Concrètement, expliquez-moi comment. Mmh. En rêvant ensemble.
Oui, je crois qu'on a un contre-exemple assez fort en ce moment. On a des cauchemars collectifs qui sont en train de se déployer de manière effarante et très rapide. Et il est de notre devoir, en tant que citoyen et en tant que créateur, d'inventer des rêves collectifs à la hauteur de ces cauchemars qui sont en train de se déployer.
J'aime bien cette idée de puisqu'on fait des cauchemars ensemble, on peut rêver ensemble. Mais comment on montre le rêve dans le dessin? Parce qu'on peut rêver d'un rêve collectif, mais enfin jusqu'à présent, il n'y a rien de plus individuel qu'un rêve. Mon rêve ne va pas ressembler au vôtre a priori. Comment vous le montrez?
Alors, il y a un livre assez incroyable d'une femme qui s'appelait Charlotte Bérat, qui vient de reparaître et qui s'est mise à vendre des copies incroyables alors qu'il avait disparu depuis quelques décennies. Ça s'appelle « Rêver sous le Troisième Reich » et c'est une dame qui a collecté tous les rêves que faisaient les gens autour d'elle pendant la montée du fascisme. Et très étrangement, le livre s'est mis à vendre incroyablement après avoir disparu des librairies, après le Covid. Parce que les rêves se sont mis à nouveau à être en syntonie. Et beaucoup de gens, pendant le premier confinement, se sont mis à s'écrire les uns les autres en disant « je fais des rêves, j'ai fait ce rêve-ci », les gens se reconnaissent. Et le livre s'est mis à fendre beaucoup parce que tout le monde a vu qu'il y avait dans ces rêves que faisaient les gens. Alors il y a toutes sortes de personnes dans le livre, c'est toutes sortes de classes sociales. Elle était elle-même perruquière, donc elle a interviewé des gens très différents les uns des autres. Et on sent ça. Et dans le livre, dans le rayon invisible, j'ai voulu essayer de trouver le pouls, comme ça, de ce que c'est que rêver ensemble aujourd'hui. Rêver une nouvelle écologie, rêver un monde qui aille vers l'intelligence collective plutôt que l'intelligence artificielle, un monde qui nous permette d'être à la hauteur des défis que nous impose l'actualité.
C'est là qu'intervient, du coup, le dialogue dans votre album. l'importance de partager l'imaginaire passe par le dialogue, et c'est aussi un jeu de piste du coup pour le lecteur. Vous vous êtes amusé à nous perdre en fait pour nous retrouver, c'est ça ?
Oui, je crois beaucoup. Je crois beaucoup au labyrinthe et notamment au labyrinthe de la parole. Je pense que nous avons, comme disaient les surréalistes, une minotauromachie à faire. Nous avons à aller vers le minotaure, et pour se confronter au minotaure de notre époque, il faut forcément accepter un peu le labyrinthique.
Alors je vous propose qu'on écoute tout de suite André Breton, pour ensuite aller plus loin, savoir où on en est aujourd'hui. Breton fait un petit bilan en fait de son travail et de sa réussite. Je vous propose qu'on l'écoute.
J'ai le sentiment de ne pas avoir démérité des aspirations de ma jeunesse, et c'est déjà beaucoup à mes yeux. Ma vie aura été vouée à ce que je tenais pour beau et pour juste. Tout compte fait, j'ai vécu jusqu'à ce jour comme j'avais rêvé de vivre. Dans le combat que j'ai mené, je n'ai jamais manqué de compagnons tout aussi décidés que moi. Et la partie a bien été gagnée dans une large mesure. Je ne veux y mettre aucune vanité, mais il est assez généralement reconnu aujourd'hui que le surréalisme a contribué pour une grande part à modeler la sensibilité moderne. En outre, il a réussi, sinon tout à fait à imposer, du moins à faire prendre en grande considération son échelle de valeur.
Voilà, André Breton, c'était en 1952, on a l'impression qu'il parle comme si sa vie était finie, il avait quand même 56 ans à l'époque, mais il tire un bilan assez satisfait finalement de l'influence surréaliste. Le surréalisme a contribué à modeler la sensibilité moderne, dit-il. Vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Il a réussi ?
Oui, complètement. Je pense même d'ailleurs que, d'une certaine manière, pour reprendre le générique que vous avez fait pour cette émission, ouais. le surréalisme a presque parfois trop modelé l'imaginaire de l'époque, dans le sens où la publicité a très bien compris que c'était un moyen d'affecter les gens, que de fabriquer des images de nature surréaliste. Mmh. Et je pense que si Breton avait traversé l'époque postmoderne et vu les mésusages qu'il avait été fait de sa théorisation, je pense qu'il serait revenu à d'autres formes de transgression. Donc je crois qu'il a tout à fait raison. Et je crois que ce que je retiens le plus de cet extrait que vous avez choisi, c'est le moment où il dit « vivre à la hauteur de ses rêves ». Mmh. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que l'on peut encore aujourd'hui encourager le plus de monde à faire. C'est-à-dire que si nous pouvons vivre à la hauteur de nos rêves aujourd'hui, dans un monde qui sans cesse nous rappelle à quel point il est de l'ordre de l'individu d'assumer et la charge écologique, et la charge de l'éducation, et la charge du soin de soi, alors que les questions d'éducation, de soins et d'écologie sont des questions éminemment publiques, mmh. et on les fait peser sur l'individu qui sent qu'il ne peut plus vivre à la hauteur de ses rêves. Et il est d'ordre politique que désormais toutes ces charges soient publiques, sociales, politiques, et que l'individu puisse à nouveau vivre à la hauteur de ses rêves. Donc je crois que le message reste d'actualité.
Le message, oui, mais vous n'avez pas le sentiment qu'ils ont perdu la partie, que le rêve a disparu face au fameux adversaire dont on parlait ?
Non. Non, pas du tout. Pour une raison simple, c'est que comme disait Kafka, chaque technologie renforce les fantômes. Là, tout à l'heure, nous avons entendu Annie Lebrun revenir de parmi les morts. Et dans le premier manifeste, il est dit « La mort est une société secrète dans laquelle le surréalisme vous introduira. Nous avons un fantôme qui vient de nous parler. » Et les auditeurs ont entendu Annie Lebrun. Et elle était toujours aussi vive, toujours aussi vivace. Et pour cette raison, nous avons des fantômes qui nous accompagnent et qui marchent avec nous. Et non, la partie du rêve n'est pas perdue.
Alors, cette BD n'est pas du tout un portrait des surréalistes, c'est la recherche de ce qu'il peut encore changer, effectivement. Quels sont les terrains où Breton et sa bande, aujourd'hui, pourraient être une aide, voire une arme ?
Alors, je pense qu'ils sont nombreux. Je crois que l'attention portée par les surréalistes à la question de la psychanalyse a été quelque chose d'essentiel. Ils se sont saisis dès le départ, dès la Première Guerre mondiale, des outils de la psychanalyse pour faire face aux folies que déclenchait la Première Guerre mondiale. Et à partir du moment où on est, j'ai envie de dire, où on prend le pouls de sa psyché, où on prend le temps de comprendre ce que l'on ressent, ces moments micro-moments, cette inframince comme ça du sentiment, eh bien on peut retrouver le calme nécessaire pour s'affronter aux catastrophes. Et comme je crois que le calme, l'attention à la psyché et le sentiment aussi très fort qu'ils avaient, que lorsqu'on descend dans le questionnement, l'écriture automatique, le questionnement de soi, eh bien on retrouve le collectif. Dès qu'ils ont inventé l'écriture automatique, qui était un outil d'introspection, ils ont créé le cadavre exquis, qui est un outil collaboratif. Et donc, si on est véritablement attentif à nos silences intérieurs, on retrouvera des manières de faire communauté.
C'est une méthode de vie, en fait. Une sorte.
Oui, je crois que la poésie, quand elle est assumée, comme chez les romantiques ou chez les surréalistes, c'est un art de vivre, oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez, là, parmi vos contemporains, des artistes, des poètes, des musiciens, des musiciennes, qui pourraient être les héritiers de ce mouvement surréaliste?
Je pense qu'on est très nombreux à l'être et que parfois c'est dans des endroits où même les héritiers ne le soupçonnent pas. C'est-à-dire qu'ils ont tellement marqué de leur sceau la manière de penser l'art que beaucoup de très jeunes artistes travaillent dans le surréalisme sans le savoir, un peu comme la prose de Monsieur Jourdain. Et l'objectif de faire une bande dessinée comme ça qui les remet à l'honneur, c'est aussi peut-être une manière d'aider à démêler les chevaux et de voir ce qu'on leur doit.
Donc moi j'utilise la danse pour lutter, c'est un acte de résistance d'entrer dans la lutte par la joie et pour dire que déjà ça c'est un espace qu'ils nous prendront pas, qu'on va continuer à lutter, qu'on va résister, qu'on va être heureux.
Pas de retraité sur les planètes brûlées, retraite, climat, même combat.
Les paroles de cette chanson c'est donc retraite, climat, même combat. Et en fait pour nous c'est hyper important de porter ce message parce qu'il y a un lien en fait très fort entre retraite et climat.
Alors, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, Damien McDonald, c'est Mathilde, la techno-gréviste, cette jeune femme qui dansait pendant les manifestations contre la réforme des retraites sur de la techno. Donc, elle lie la danse et la révolte sociale. Ça, c'est une forme de surréalisme au service de la révolution.
Oui, tout à fait. Il y a quelque chose d'assez frappant dans le début du surréalisme et dans ce que nous confrontons aujourd'hui, c'est qu'il y a cette croyance fondamentale que si nous savons entendre notre corps, entendre notre désir, et donc entendre ses mouvements et entendre sa danse, alors nous pourrons trouver notre place sociale. C'est-à-dire que la manière dont nous vivons notre corps est fondamentale dans la question politique. Mm-hmm. Et plus tard, évidemment, ça va inspirer des gens comme Deleuze, Guattari ou Foucault qui vont comprendre les enjeux de la biopolitique. Et ils ont pu arriver parce qu'il y avait eu avant eux les surréalistes. D'ailleurs, Foucault était très, très intéressé par les premières inspirations des surréalistes.
Alors, le corps, vous en parliez. Le corps, c'est la matière, c'est ce que vous faites. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vie dans votre album, beaucoup d'humour aussi. L'humour, c'est très important, j'imagine, dans ce que vous avez voulu transmettre.
Oui, alors on oublie quelque chose d'assez formidable chez André Breton souvent, c'est qu'il a créé un concept qui est celui de l'humour noir. Avant lui, on n'avait pas de mots pour définir cette manière de rire du pire et cette manière de se protéger, de s'inoculer du rire pour se défendre de la violence du monde. Et il en a fait une anthologie absolument formidable que je recommande vivement à tous les lecteurs. L'humour est une et l'humour sans sombrer pour autant dans l'ironie ou le sarcasme qui sont des sourires. Mm-hmm. Je crois qu'il faut rire franchement voilà.
Alors rire franchement, moi ça me fait penser au côté très franc aussi des couleurs que vous utilisez. Il y a quelque chose de très droit, très qui attaque complètement l'image. Et j'avais lu quelque part que vous aviez un peu peur de la couleur avant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est le surréalisme qui vous a donné des ailes.
Oui, il y a eu une digue qui a lâché quelque part. J'avais peur des couleurs parce que je les trouve excessivement belles et merveilleuses dans le quotidien. Et les utiliser dans une œuvre me paraissait quelque chose presque de l'ordre du sacrilège. Et j'ai pris la décision, quand je me suis lancé dans la couleur, de m'y baigner et de ne surtout pas me restreindre.
Voilà. Et vous aimez faire des citations, j'imagine, puisqu'il y a beaucoup de citations des œuvres qui vous ont intéressé, que vous avez aimé. C'est quelque chose qui vous dérange pas, ça, Damien McDonald?
Non, je crois que nous avons, comme notre code génétique qui transbahute tous nos ancêtres, nous avons, en tant qu'artistes, à respecter tous ces ancêtres qui nous ont constitués. Donc quand je pense à un tableau et qu'il m'a inspiré et fait du bien, je le métabolise à ma manière. Je cannibalise un peu l'histoire de l'art. C'est vrai que peut-être ce cannibalisme peut en gêner certains, mais moi j'aime beaucoup l'idée d'aller manger à pleines dents la culture qui est là.
Et l'amour dans tout ça, parce que ça se termine là-dessus. Hein.
Ah, oui, oui, oui. C'est le centre. C'est peut-être le savoir aimer qui motive l'ensemble. Ce qu'il y a d'assez incroyable, c'est que nous, avant même d'avoir défini l'amour, nous savons tous de quoi il est question. Avant même de l'avoir expérimenté dans notre vie, on le ressent, et c'est cette puissance-là qui motive l'ensemble et du dessin et de l'écriture et du reste.
Les surréalistes, ils en auraient pensé quoi du centenaire, à votre avis?
Il y a une phrase assez drôle où Breton imagine à un moment donné, je me souviens plus dans quel texte, c'est que le surréalisme a déjà 100 ans et il dit je suis sûr que ce serait encore du côté de la jeunesse et des adolescents et je pense qu'il a raison, que s'il était là il serait probablement en train d'aller à mon avis, avec Extinction Rébellion.
On va terminer là-dessus. Alors, merci beaucoup, Damien McDonald, sur cette prédiction. Je rappelle que Le Rayon Invisible paraît chez De Noël Graphique et que nous, ça nous a donné envie d'écouter un artiste qui colle pas mal à l'univers surréaliste. Dans son clip, il est tout bleu, comme le dieu Pan dans votre BD. C'est Nu, de Philippe Catherine.
Nu. Est-ce qu'il y aurait des guerres si on était resté tout nu? Non. Ou cacher un revolver quand on est tout nu? Ou je sais où vous pensez, mais c'est pas une bonne idée. Ouais. Plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. Oui. Qu'on soit slim, qu'on soit gros, on est tout simplement tout nu. Oui. Vivons comme on est né, nu. Vivons comme on est né, nu. Tout simplement tout nu, nu. Tout simplement tout nu. Comme le sont les animaux qui n'en font jamais trop. Ils voient qu'on ressemble trop à des singes sous des manteaux. Des pélicans avec des chapeaux nuls. Tout simplement tout nul. Restons nus. Tout simplement tout nul.
Les Midi de Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Aïssa Toundoy, Oriane Delacroix, Boris Pinault, Marceau Vassy, Zora Vignier, Lise Ripoche et Joanne Osilio. Elle est réalisée par Laurence Malonda, avec à la prise de son aujourd'hui Étienne Collin.
Tout simplement tout nu. Tout simplement tout nu.